Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de création. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi c'est Louise, je suis autrice, coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club il y a quelques années. Dans ce podcast, j'interviewe des plumes qui ont décidé de s'emparer des mots pour dire, révéler la vie, l'humain, la créativité. Et parfois tout simplement juste pour aider et inspirer. Pour cette nouvelle saison, il y a une nouveauté. Tu peux maintenant faire partie de la communauté du podcast sur Tipeee. Mais c'est quoi cette plateforme? Eh bien, c'est une plateforme qui sert à soutenir le podcast, ainsi que d'autres créateurs. Et ce contenu que je crée avec le cœur, il pourra ainsi continuer à vivre sa vie durant plusieurs saisons. Tu peux ainsi l'aider à se développer en faisant un don, un tip, après l'épisode que tu as écouté. Et en échange de cela, tu as accès à des bonus ou à d'autres contenus inédits. Alors, après cette écoute, rendez-vous sur Tipeee. Le lien se trouve dans le descriptif de chaque épisode et sur mon Instagram. Ah, voilà, on respire. C'est parti. On va plonger dans de nouveaux échanges vibrants, passionnés. Parce que oui, les mots délivrent. Il suffit juste un jour d'oser exprimer. Hello tout le monde, me revoici derrière le micro des mots qui délivrent avec un tout nouvel épisode et cette fois-ci c'est une nouvelle voix masculine que je voulais interviewer. Il s'agit d'Alexis Alvarez qui porte beaucoup de casquettes à lui seul. Je lui laisserai le soin de se présenter. En tout cas, Alexis est poète, Alexis est musicien et je n'en dis pas plus pour le reste. Mais il a sorti son premier roman, Relations, aux éditions de l'Arbre à Parole et qui me paraissait extrêmement, extrêmement revigorant. Et j'avais plein de questions à lui poser. J'aimerais qu'on aille ensemble découvrir tout cela. J'espère que ça vous plaira. Belle écoute.
Hello Alexis.
Salut.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien, très bien.
Merci d'être dans le podcast, Les mots qui délivrent. Pour la petite histoire, je sentais depuis pas mal de temps que j'avais envie de te recevoir autour du micro ici. Et puis le hasard de la vie a fait que je crois que t'étais occupée, j'étais occupée, on s'est un petit peu cherché. Et puis on s'est vu il n'y a pas longtemps et je me suis dit là, il se passe un truc, c'est que tu viens de sortir Relations. Aux éditions de L'Arbre à Parole, dans la collection IF. Et j'ai eu l'occasion en plus de lire il n'y a pas longtemps. Et là, je me dis, je ne peux plus attendre. C'est vraiment le moment pour te recevoir dans le podcast. Ma première question, c'est est-ce que toi, tu peux un peu te présenter aux auditeurs, auditrices et avec les mots? Je trouve ça important qu'on puisse se présenter soi-même avec les mots qu'on choisit. Est-ce que tu es d'accord de faire ça?
Tout à fait. Donc effectivement, c'est un exercice un peu périlleux de faire ça. Mais donc voilà, je m'appelle Alexis Alvarez et... J'écris depuis déjà pas mal d'années, en parallèle de beaucoup d'autres activités, puisque je suis aussi prof d'espagnol, je fais aussi de la musique. Et donc voilà, je dirais que j'ai découvert un peu l'écriture d'abord à travers la poésie. Et j'ai d'abord écrit de la poésie, ici Relations c'est plutôt un roman.
Ouais.
Et je dirais que tout est venu de la lecture en fait. C'est vraiment ça qui m'a vraiment passionné dès l'enfance. Et puis je pense qu'il y a un chemin, à mon avis, entre la lecture qui peut mener après à l'écriture, quoi. Donc voilà, ce serait un peu ma présentation. Lecteur, écrivain.
Lecteur, écrivain. Ouais. J'aime bien le petit rappel que tu fais de ce passage de la lecture, éventuellement vers l'écriture, parce que j'ai l'impression que tu rappelles quelque chose qui est essentiel, c'est que c'est ce plaisir de lecteur qui parfois nous donne cette aspiration à nous-mêmes manipuler les mots, etc. Donc tu es vraiment multi, quoi. J'entends qu'il y a beaucoup de disciplines dans lesquelles tu te répands, quoi. C'est pas facile de choisir un mot, mais tu dirais que tu es poète. Si tu devais choisir vraiment une acception qui englobe tout, c'est pas facile, hein, ma question. Mais
moi, je dirais quand même que c'est l'écriture qui rassemble toutes mes activités. Même en tant que musicien, que participant à des projets musicaux, j'écris quand même des textes aussi,
ouais,
pour les chanter ou pour les dire.
Mm-hmm.
Donc pour moi, il n'y a pas nécessairement de différence entre poète, romancier. C'est pas quelque chose qui me paraît particulièrement pertinent. Moi, je dirais que j'écris. Je dirais même pas je suis écrivain, parce que je trouve que là, c'est une identité. Et là, c'est un peu flippant de se dire je suis écrivain. On pense tout de suite à des figures.
Ça peut être intimidant.
Voilà, donc j'écris. Je trouve que c'est une activité, c'est une action. Et j'aime bien me définir aussi dans l'action. Donc, voilà, ça c'est... Voilà, c'est ça que je dirais.
Chouette, oui. C'est clair. Et puis je trouve qu'il y a une manière très humble d'amener les choses aussi, finalement. C'est à ton honneur. C'est vrai qu'écrivain, écrivaine, auteur, autrice, oui, ça peut soit imposer quelque chose, soit être intimidant pour certaines personnes. À partir de quel moment tu peux situer cette connaissance de toi où tu intègres, tu acceptes, tu accueilles, j'écris, alors pour reprendre tes termes.
ça a été quand même long. Ça a été quand même long parce que je trouve que le chemin du lecteur ou de la lectrice à l'écrivain ou à l'écrivaine, c'est un chemin qui est long.
Ouais.
Dans mon cas, il est très long parce que voilà, on commence par lire des choses, mais évidemment, on ne peut être qu'intimidé quand on lit des classiques. En plus, moi, j'ai étudié les romans, donc j'ai lu beaucoup de classiques.
Oui, d'accord.
Donc, évidemment, il est évident que dans un premier temps, on ne s'imagine pas du tout qu'on va pouvoir s'inscrire dans cette lignée-là d'une quelconque façon. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je ne m'inscris pas dans cette lignée-là, mais le temps qu'on trouve, tiens, c'est dans ce territoire-là que je vais pouvoir dire des choses intéressantes. Mm-hmm. Et bien sûr que et ce chemin-là prend beaucoup de temps.
Moi, ça me fait beaucoup de bien, personnellement, d'entendre ce genre de choses. Dans mon cas personnel, c'est un chemin aussi qui a mis du temps, qui peut commencer il y a très très longtemps, mais qui a pris du temps. Et dans les personnes que j'accueille ici en accompagnement à l'écriture, c'est fou de voir des personnes avec des âges matures, on va dire, mûres, et qui viennent à moi en se posant la question, est-ce que je peux encore venir ? Donc je pense que ce que tu envoies ici va certainement faire du bien aux oreilles de certaines personnes qui sont encore dans ce cheminement, quoi, qui prend du temps, comme tu le dis.
Mais Joël, je pense que dans l'écriture, tout prend du temps. Donc si on a envie d'une activité où on fait une chose et le lendemain on a un résultat, il ne faut pas se tourner vers l'écriture parce que je pense que là, ça prend du temps et on ne sait jamais quand les choses vont se passer à aucun point de vue. Est-ce que je vais finir ce projet ? Est-ce qu'on va me le prendre quelque part dans une maison d'édition ? Est-ce que les gens vont avoir envie de le lire ? Enfin, tout ça, ça ne dépend pas vraiment de nous et surtout, c'est dans une temporalité sur laquelle on n'a absolument aucune prise.
Ah donc, tout est distordu.
Complètement.
Avec zéro prise. Ben, je trouve que c'est très... C'est très juste d'entendre ça. Genre, en tout cas, ça me parle beaucoup. J'ai une question qui me vient de manière très spontanée, évidemment, quand j'entends ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'on continue ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu continues ? Qu'est-ce qui fait que toi, cette écriture, elle est arrivée, tu l'as accueillie et, avec toutes ces...
Oui.
C'est pas des embûches, mais c'est
des aléas. Des aléas, exactement. Je dirais que c'est une question, évidemment, qu'on se pose à soi-même. Souvent, on se dit, mais bon, à quoi bon ? Mais voilà, je crois que... pour moi, ça reste... Je ne sais pas si je peux utiliser vraiment le mot « besoin », parce que ça, c'est peut-être un mot qui est un peu fort. Mm-hmm. Mais c'est une envie, quoi. Je dirais plutôt « c'est une envie ». Et parfois, on croit que cette envie, elle s'est tarie. Et puis, non, elle revient, quoi, cette envie. Donc, et puis, elle revient, je dirais aussi, grâce à la lecture. Mm-hmm. Je dirais que la lecture, c'est aussi un monde... Mais dans lequel on a un peu envie aussi de s'immiscer, quoi. Mm-hmm. Et je trouve que la lecture, c'est très créatif comme activité.
Complètement.
Donc, j'ai même pas envie vraiment de séparer les deux mondes. Quand je lis un truc incroyable, ça me donne envie d'écrire. Même si ça me donne pas envie d'écrire la même chose que ce que je suis en train de lire, mais ça me remontre à quel point ce monde est fabuleux et plein de possibilités, quoi. Donc,
C'est agréable parce que c'est vrai que de voir, tu l'as amené dès le départ, hein, ce rapport entre la lecture et l'écriture, je sens qu'il est très présent en fait. Je suis en train de découvrir qu'il est très présent dans ton propre cheminement par rapport à ça. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, à tel point je lis ce truc merveilleux, inspirant, stimulant, ça me donne envie d'y aller, quoi. Ça, c'est... Oui. La pulsion vient de là aussi alors chez toi.
Oui, c'est sûr. Mm-hmm. Parce qu'en plus, moi. Je lis principalement des choses en espagnol, cette stimulation, je la ressens encore plus quand je lis un truc en espagnol parce que ça me donne encore plus de liberté par rapport à quelque chose qui serait en français où il y aurait déjà une sorte de limite. Là, c'est en espagnol, donc c'est un autre univers et voilà, c'est vraiment stimulant pour moi. De lire dans d'autres langues.
Oui, mais c'est intéressant aussi. Moi, j'ai beaucoup lu en anglais aussi. J'ai vécu là-bas, etc. Et j'entends ce mot liberté. Et on viendra à relation parce que voilà, il y a beaucoup de choses essentiellement qui se passent totalement à Madrid, hein, c'est ça, en Espagne, donc ça vient aussi dans ton écriture.
Bien sûr.
Les voyages, les lieux, les villes, les langues sont aussi un stimulant incroyable. Là, c'est l'espagnol, c'est vraiment que ça s'inscrit chez toi, quoi.
Complètement, oui, oui. Mm-hmm. Parce que j'ai commencé à lire en espagnol très, très jeune et... au début ça m'a pas forcément plu, au début c'était un peu une corvée, et puis non, au fil du temps, enfin surtout parce que j'ai découvert toute une veine d'écrivains, d'écrivaines qui finalement me ressemblaient plus, ça c'est toujours un peu étrange de dire ça, mais où j'éprouvais beaucoup de plaisir à les lire, et peut-être plus de plaisir que ce que je pouvais éprouver avec des écrivains francophones contemporains. Même si voilà, maintenant j'en redécouvre tout le temps, que je trouve géniaux, mais c'est un peu, je veux dire, mon rapport à la littérature contemporaine, il est plus venu de la littérature hispanique que de la littérature francophone, quoi.
Mais là, je trouve que tu soulèves un aspect qui, pour moi, est assez présent. Déjà, j'entends que tu viens des romanes, la tradition, la littérature française, c'est quand même pas rien, quoi. Et j'ai l'impression que souvent, c'est hyper pesant pour les personnes qui veulent se lancer de manière... contemporaine, pour reprendre tes mots, c'est vachement freinant, quoi, bloquant. Donc là, tu as trouvé une parade.
C'est sûr,
mais qui t'amène par un autre endroit dans la littérature, quoi.
Oui, oui, ça c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de liberté chez ces auteurs et autrices, et donc voilà, ça m'a libéré, effectivement. Oui.
Et j'entends autre chose, tu parles de cette veine d'écrivain ou d'écrivaine, d'un genre, d'un style d'écriture. J'ai toujours cette impression qu'on peut trouver une forme de panthéon de personnes, de pères, de mères spirituelles. Et comme tu dis, on n'a pas envie de faire comme eux, mais on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle de ce côté-là. Tu trouves ça encourageant de trouver cette veine, cette partie-là que tu vas suivre pour y aller?
Disons que moi, ce que j'ai toujours aimé par-dessus tout chez les auteurs que je lis, c'est vraiment de sentir cette sensation de liberté. C'est-à-dire de me dire, waouh, en fait, là, elle a fait ce qu'elle a voulu. Il a fait ce qu'il a voulu. Il ne s'est pas dit, genre, oui, je vais faire comme ça pour que les gens me trouvent comme ceci, comme cela. Non, je me suis dit, il a fait ce qu'il a voulu. Elle a fait ce qu'elle a voulu. Et ça, c'est précieux parce que c'est ça qui nous libère. C'est de se dire, ah ouais, mais il a pas essayé de respecter une règle ou un truc, ou un nombre de pages, ou un nombre de trucs, un nombre de paragraphes. Non, c'est complètement fou. Et voilà, quand j'ai lu Bolaño, par exemple, ben voilà, ça c'est vraiment un auteur où je me suis dit, mais s'il écrit, c'est complètement fou. Et ça, c'est libérateur, quoi, complètement.
Ouais.
Donc voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, quoi.
Oui. Mais je trouve ça vraiment très intéressant d'aborder ça avec toi, cet aspect. Il y a des personnes, à travers leurs écrits, les médias qu'elles ont développés, qui te donnent cette autorisation, en fait. Tu le ressens comme ça ? Moi, je le ressens comme ça très souvent. Je me dis, donc en fait, là, c'est bon.
Oui.
On peut y aller, freestyle.
Complètement. Mais après, c'est vrai que, par ailleurs, je suis d'accord avec cette idée que c'est hyper libérateur, mais il faut toujours bien se dire dans quel contexte on est et dans quel contexte se trouve cet écrivain ou cette écrivaine, et se dire, on n'est pas du tout dans le même contexte, et il faut aussi quand même, je ne peux pas que me dire, tiens, maintenant, je vais écrire ce que je veux.
Oui,
le premier truc qui me vient à l'esprit. Non, je pense que chacun ou chacune, quand il écrit, a toujours une sorte de lecteur rêvé en tête.
Bien sûr.
On s'adresse forcément à un lecteur parce que sinon c'est une sorte de délire personnel. Et là, je pense qu'il faut quand même communiquer quelque chose.
Bien sûr. Ouais.
Et donc ça, c'est un challenge qui est intéressant, quoi. Entre les deux, entre cette envie, cette ivresse de liberté, mais l'idée qu'au final, quand
et
même, il faut rester un peu
par un lecteur,
pragmatique, dans le sens où on a quand même envie d'être lu. Donc
oui,
ça me paraît...
Oui, tu le dis aussi clairement, comme ça, ça va faire du bien à d'autres qui écoutent.
Mais
aussi.
Après, ça ne veut pas dire être lu massivement, ne fût-ce que par un lecteur ou une lectrice qui va me dire « Oh, j'ai aimé ce que tu as fait. » Donc,
voilà. Dans une résonance, un partage.
Exactement, oui, il y a toujours un partage, oui.
Tant mieux. Par rapport à justement cette écriture, tu as commencé par la poésie. Quel format a été cette porte d'entrée vers ce « j'écris » que tu as amené?
Il me semble que beaucoup de gens commencent par la poésie parce que c'est une forme plus brève, et je pense qu'on peut plus facilement arriver à un résultat, arriver à être satisfait d'une dizaine, une quinzaine de poèmes, et puis quand on en a 10, quand on en a 15, on se dit allez, je tire un peu plus loin. Mm-hmm. Mais déjà quand on fait ça, on rentre déjà dans l'écriture comme travail.
Ouais.
Là l'écriture ça devient un travail, ça veut dire que je finis cette idée, et après le chemin vers les écritures plus narratives, je dirais pas immédiatement le roman, parce que mm-hmm. pour arriver au roman c'est aussi un chemin, on passe pas de la poésie au roman comme
c'est
ça d'un coup,
hein, non.
On essaye d'écrire des petits textes narratifs de quelques lignes au début, et j'avoue que pour moi c'est pas du tout facile.
C'est vrai,
pas du tout facile. Mm-hmm. J'ai pas du tout une écriture qui file comme ça.
Ouais.
Absolument pas.
On
donc,
pourrait revenir parce que là, en l'occurrence, relation, tu l'as amené comme un roman. Donc,
complètement.
Ce sera intéressant d'aller revoir ça par rapport à. Mais j'entends des étapes, quoi.
Ouais.
Est-ce que c'est pas la base de toute forme d'apprentissage dans la pratique, tu vois?
Bien sûr.
On va faire un concert de violon, voilà.
Dans c'est sûr.
Complète.
Ouais. Mais c'est un apprentissage qui, dans mon cas, est chaotique. Dans le sens où, voilà, c'est une route et il y a des ornières et il y a des trous, il y a tout ce qu'on veut. Mmh. Et il faut quand même l'emprunter, cette route. Donc, pour moi, c'est hyper important de faire cet apprentissage un peu qui peut s'apparenter un peu à une traversée du désert, quoi. Donc, genre,
ah, il y a des nuits noires.
Ouais, genre un moment où on est perdu, quoi. Et puis on se dit, bon, je vais peut-être arrêter. Enfin, tout ça, ça fait quand même partie, à mon avis, du processus que moi j'ai traversé en tout cas, et
mais
que
oui,
je continue
à
traverser. On fait comme si c'était fini, mais c'est pas du tout fini. Je veux dire, chaque projet qui arrive sur le tapis, bah, c'est de nouveau, on traverse exactement
c'est
les mêmes doutes.
C'est un point de départ à nouveau.
On traverse exactement les mêmes doutes.
Ouais.
C'est totalement impossible de se dire, voilà, maintenant je suis sur une voie de garage. Non, justement, lapsus révélateur, je suis sur une autoroute et maintenant c'est parti. Non, non. Mm-hmm.
Et justement, ton lapsus il est très révélateur,
oui.
Parce que quand tu entames un nouveau projet, il est assez courant d'avoir cette sensation d'être sur une voie de garage et même parfois d'en être déstabilisé, de se dire enfin j'ai quand même réussi à terminer, à aboutir un projet, j'ai dépassé déjà pas mal de choses dans mes propres freins, dans cette fameuse première traversée du désert, et puis en fait cette voie de garage qui te bloque et dit mais qu'est-ce qui se passe là, what the fuck, c'était pas prévu quoi.
Ouais,
je sais
pas
si tu le vis comme ça, moi je suis dans mon deuxième roman et faut tout recommencer quoi.
Bien sûr, c'est juste que il y a pas de mode d'emploi. Donc, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas une marche à suivre qui est « demain, je fais ça, après-demain, je ferai ça et dans une semaine, j'aurai fini ». Non. Et il n'y a pas non plus de quelque chose qui serait correct et quelque chose qui serait incorrect.
Ouais, totalement.
Et donc, bien sûr, on peut… voilà, dans l'écriture, on est quand même toujours très seul. Il n'y a rien à faire. On peut faire lire en permanence ce qu'on fait. Ce n'est pas du tout mon parti pris. Mm-hmm. Mais on est quand même toujours seul.
Bah,
oui, on peut demander un éclairage, mais… La personne va nous donner son opinion, mais...
C'est quand même toi qui tranches.
C'est quand même toi qui tranches au final et qui fait les choses, donc...
Et puis c'est confrontant, seul, à 1h du mat, devant ton calepin, ton PC, t'es tout seul, effectivement.
Ouais.
J'entends, il n'y a pas de mode d'emploi.
Oui.
J'entends romane.
Oui, oui, oui.
Moi, je reçois dans mes coachings d'écriture cette question. J'ai voulu m'inscrire en romane, et puis en fait, non, parce que j'ai vu le programme, on n'apprend pas à écrire.
Ah, non.
Comment tu fais, toi? Comment t'as appris? Comment, c'est quoi là? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de règle, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, j'aime bien demander à chaque personne que j'interviewe vers quoi tu te tournes, vers quoi tu t'es tourné pour avoir ces autorisations, ces pistes.
Pour moi, il y a un seul mot-clé, c'est la lecture. Ça, je veux dire, je pense que je pourrais m'abstenir d'écrire, mais m'abstenir de lire, ça, ce serait totalement, totalement impossible. Et j'insiste vraiment, vraiment beaucoup sur le fait que la lecture est décisive, quoi. C'est très étrange. Moi, je me pose moi-même la question dans ma propre vie de me dire, là, j'essaye d'écrire, mais je ne lis plus rien depuis quelques jours. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Parce que je pense qu'on est sous perfusion de la lecture en permanence. Et donc, je crois que les romans, ça t'apprend à lire. Donc, ça, c'est vraiment super.
C'est quand même un fameux bagage.
Ça, c'est vraiment super. Ça t'apprend à lire d'une certaine façon très spécifique.
Il y a beaucoup d'analyses textuelles.
Il y a beaucoup d'analyses et tout ça, mais ça t'apprend quand même à... Moi, ça m'a quand même appris à encore plus aimer les livres que je les aimais avant.
À découvrir une dimension, peut-être.
Oui, à découvrir une autre dimension. Puis voilà, apprendre à aimer les classiques, c'est pas forcément simple. Parce que on lit des choses qu'on choisit, mais c'est aussi important de lire des choses qu'on ne choisit pas nécessairement. Et puis aussi, voilà, d'entrer dans les classiques. Je veux dire, maintenant, j'éprouve beaucoup de plaisir à lire La Princesse de Clèves ou Flaubert ou Balzac. J'éprouve beaucoup de plaisir, mais je pense que ce n'est pas si simple. Peut-être comme ça, de but en blanc, si je n'avais pas eu cette clé d'entrée des romans, j'aurais eu plus de mal à vraiment apprécier ces auteurs comme je les apprécie vraiment, où je tombe sur une page et je me dis waouh, c'est absolument génial. Mais voilà, c'est un apprentissage, je trouve. Et sans vouloir évidemment être élitiste, c'est comme apprendre à goûter, à savourer un vin, chose que je ne sais pas du tout faire.
Voilà, j'associais vin et gastronomie dans mon esprit. Voilà.
Chose que je ne sais pas du tout faire, mais en l'occurrence, je me dis, bien sûr, ça s'apprend. Et donc, je dirais que les romans, pour ça, c'est magnifique. Enfin, et toujours maintenant, c'est quelque chose qui me nourrit. Mais par ailleurs, si on veut écrire, c'est probablement pas le plus simple.
Voilà.
C'est probablement pas le plus simple parce que on va être longtemps écrasé par ces figures incroyables, Nathalie Sarraute, Aragon, des trucs vraiment...
Ah oui, parce que là, tu rentres dans le panthéon vraiment suprême et
complètement.
Tu te dis par où je vais, quoi.
Et là, t'as plus que la crème de la crème, t'as plus que les millésimes incroyables et toi, tu dois faire un vin là-dessus.
Mais c'est intéressant de voir... tu parles de l'espagnol, tu parles de cette culture. Moi, j'ai beaucoup appris grâce, pareil, romane aussi, commu avant. Et il y a certainement les clés que tu amènes. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y en a d'autres pour lesquelles tu te sens démunie, et tu te sens écrasée. Moi, je sais que c'est par la littérature anglo-saxonne que j'ai reçu beaucoup d'autorisations. Et qu'au final, tu te dis, je lis. Et je lis autre chose après que cette littérature classique écrasante, mais qui néanmoins a amené beaucoup de choses.
Je pense que moi, c'est aussi beaucoup venu de la musique que j'ai toujours pratiquée en parallèle, et notamment des textes de chansons anglo-saxons, où c'est aussi un peu la première fois que j'ai éprouvé cette sensation de liberté, de me dire « Waouh, mais le gars, il raconte exactement ce qu'il veut, et ça marche. » Mais voilà, je veux dire, il y a les deux. Il raconte exactement ce qu'il veut et ça marche et ça me touche. Et je pense qu'il ne faut pas prendre le raccourci de dire « Oh, ok, je vais écrire le premier truc qui me passe par la tête et ça va parler aux gens. » Non, là, je crois qu'il faut trouver, mais bon, c'est une recette, quoi, qu'il faut trouver.
Le truc
entre c'est l'instinct, c'est l'intuition de se dire « Ok, Et pour moi, c'est ces groupes, je sais pas, je pense aux Pixies par exemple, ou je sais pas, The National ou des groupes comme ça, de se dire comment ils ont fait pour trouver cette alchimie d'un truc qui est hyper délirant, mais qui en même temps parle aux gens.
Et
ça, je pense qu'il y a toute une tradition là-dessus dans l'écriture de textes de musique pop qui passe par Dylan, qui passe par les Beatles même.
Ah oui, si tu vas chercher de ce côté-là.
Et là, évidemment, ils ont trouvé cette alchimie, mais elle n'est pas non plus forcément facile à trouver. Mais enfin, c'est quand même libérateur. Ça permet comme je disais tout à l'heure, l'importance de la lecture, il y a aussi l'importance de l'écriture, évidemment, mais comme simple... chose factuelle, prendre un document et écrire ce qui nous passe par la tête, vraiment.
Et là, arrives à quelque chose qui est basique, mais dont on ne se souvient pas toujours, qui est prends ton carnet, prends ton stylo, aligne quelques mots et c'est parti.
Donc, tu écris, il faut juste apprendre à gérer cette sensation de se dire j'écris un truc, mais c'est quand même un peu nul, parce qu'il faut quand même, parce que forcément, tu prends ton stylo, tu écris ce qui te passe par la tête, ça va peut-être être nul. Mais ça peut être le point de départ vers quelque chose, ça va te donner des idées.
Ça va muscler après
ton
travail. J'entends la chanson, l'écriture de chanson. Donc ça, dans ton apprentissage, dans ton initiation à l'écriture, il y a aussi les textes de chansons qui t'ont envoyé des signaux.
Tout à fait.
C'est intéressant, très intéressant, vraiment.
Parce que c'est aussi une forme d'écriture qui est assez différente, mais... Bon, en tout cas, sur le côté libérateur, ça a joué un rôle.
Du côté bibliothérapie de ce que je propose, on utilise beaucoup les textes de chansons aussi.
Oui.
Même en dehors de la musique, du chant.
Bien sûr, le texte en tant que tel,
Le sel du truc. Mm-hmm. Moi, je peux totalement adhérer à ça. J'ai entendu travail, et on a un petit peu discuté avant aussi de brancher le micro. Moi, j'avais cette question parce que j'étais vraiment en train de me dire, tiens, comment tu vois les choses ? Est-ce que c'est un métier pour toi, alors, cette écriture ? Comment tu, Comment tu appréhendes ce truc, cette forme avec laquelle tu vis beaucoup, quoi.
Je dirais qu'un métier, certainement pas, parce qu'un métier pour moi, ça implique une formation avec un savoir-faire qui est transmis. Mm-hmm. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout un savoir-faire qui est transmis. C'est même pas un savoir-faire. C'est une activité que je pratique d'une façon complètement singulière, en tâtonnant en permanence. Mon métier, si j'ai un métier, ce serait prof d'espagnol, ben, je ne peux pas le faire en tâtonnant.
Non.
Quand j'arrive au cours, je ne me dis pas, tiens, il va se passer quoi, je vais dire quoi. Je ne peux pas faire ça.
Donc, il y a des compétences.
Il y a des compétences. Et puis surtout, je sais où je vais. Je sais où je vais, quel est le point d'arrivée. Ici, c'est toujours un peu la jungle. Donc, je dirais que ce n'est pas un métier. Mais par ailleurs, c'est un travail.
C'est ça.
Et c'est un travail dans le sens où je réfléchis beaucoup avec mes petites compétences à la notion de travail en général. Et il me semble que dans la notion de travail, il y a toujours la notion de contrainte. Et donc, par exemple, je réfléchis, je me dis, tiens, je fais la vaisselle chez moi. Ben, c'est du travail. Mmh. Ben, c'est du travail, bien sûr, ce n'est pas une profession, ce n'est pas quelque chose qui est rémunéré, mais c'est du travail. Et quand j'écris, j'ai quand même cette sensation que c'est du travail parce que ce n'est pas que du plaisir. Ce n'est pas ce n'est pas ce qu'on peut qualifier de loisir. Parce que non.
Le loisir, c'est le hobby, tu t'éclates et voilà quoi.
Le loisir, il n'y a pas de notion de contrainte. Mm-hmm. Dans le sens où je regarde une série sur Netflix, voilà, je l'ai choisi et il n'y a absolument aucune contrainte. S'il y a une contrainte, j'arrête et je fais autre chose.
Oui.
Mais dans l'écriture, il y a une contrainte. Et ça, je crois que c'est... Il faut vraiment comprendre ça. Ce n'est pas du plaisir pur. Je suis là, ah ah, hihi, je note mes pensées, c'est trop bien. Et à la fin, j'ai un roman. Non, non.
Non, sinon, c'est du journaling et voilà, ça signifie
ouais,
ça.
Et donc, dès qu'il y a une réélaboration, dès qu'il y a une élaboration, une mise en forme de ce qu'on a écrit.
Et un travail de réflexion.
Mais en tout cas, dès qu'il y a une mise en forme, parce que ça me paraît quand même important. Il y a une contrainte. Et donc, il y a une contrainte, ça veut dire qu'on va au charbon, sans vouloir du tout non plus faire le souffre-douleur et comparer ça à des travaux vraiment pénibles. C'est pas ça.
C'est essentiel de le rappeler aussi, quoi. Parce que toute personne qui est dans cette activité, quelle que soit l'acception qu'on lui donne, le sait, le vit, quoi.
Oui,
ne fût-ce que par l'attente, le temps déjà, parce que ça nécessite persévérance, détermination, confiance... Et comme tu dis, il est fort, vraiment.
Bien sûr, mais je dirais qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu jouissif, où on éprouve vraiment du plaisir à trouver une image, un jeu de mots, un truc, une phrase qu'on trouve particulièrement réussi.
Le travail ne veut pas dire pénitence non plus.
Exactement. Mais malgré tout, le gros, c'est du travail. Et je dirais que plus on va vers le roman, plus le travail... est présent comme dimension.
Ben on va y aller justement. Parce
moi, c'est ce que j'observe. Après, je me réjouis que d'autres puissent dire « Ah non, moi, c'est que du plaisir, c'est super, je suis content pour eux. » Mais voilà.
Oui, et j'entends ça. Et tu dis « C'est plus gros. » Tu as commencé, j'ai commencé par la poésie.
Oui.
Parce que voilà, c'est un sentiment d'accomplissement, de fini plus vite.
C'est ça, exactement.
Ça n'empêche, il y a quand même la construction.
Tout à fait.
La réflexion. Et tu arrives au roman... C'est de l'architecture à ce moment-là, quoi, vraiment. Donc, architecture, c'est travail, évidemment.
Oui.
Il y a construction, il y a structure, il y a fondation, il y a...
Oui.
Tu vis comme ça aussi, toi.
Tout à fait. Pour moi, ça reste très difficile d'envisager le roman comme ça, comme une construction. Je pense qu'il y a différents types de romans. Mais après, moi, j'aime pas trop les œuvres avec des architectures trop rigides.
Ouais.
Enfin, je peux éprouver du plaisir... à les lire, clairement. Mais après, je peux pas m'inscrire là-dedans. Je peux pas me dire, je vais faire un truc comme ça, parce que ça...
Ah oui, parce que il y a les personnes qui ont des canevas séquenciers, qui découpent tout. Et puis, il y a d'autres manières d'écrire un roman. Moi, j'ai tendance à te rejoindre. Il y a aussi quelque chose qui est du spontané, de l'exploration, d'être chopé par tes personnages. Tu sais pas d'où, comment c'est arrivé. C'est un petit peu plus spontané. Moi, c'est le terme qui me vient souvent. Organique, en tout cas.
C'est ça, organique, exactement. C'est-à-dire que tu laisses un peu... aussi le texte t'emmener un peu ailleurs aussi par moment. Tu n'as pas... mais moi ça, honnêtement, ça me plairait à fond d'avoir un canevas et tout, de me dire aujourd'hui j'écris ça, demain j'écris tel truc, et dans 6 mois j'écrirai le chapitre 18.
Parce que là, au moins, j'aurais ton point d'arrivée.
Ça me plairait.
Comme dans
mais...
tes cours d'espagnol, ouais. Tu dis là, au moins, j'aurais mon
exact.
Point d'arrivée.
Exact. Et je pense qu'il y a des écrivains qui ont ça.
Bien sûr.
Mais moi, j'ai pas ça. Donc, mm-hmm. c'est beaucoup plus dans le processus et de se laisser un peu guider aussi par sa propre écriture. Voilà, parfois, on écrit mm-hmm. quelque chose et on n'avait pas l'idée que tel personnage allait surgir et tout à coup, il surgit un peu de
voilà.
ce qu'on a écrit. On
ah
se dit,
oui,
ok, je vais le développer, ceci, cela.
Hein.
Voilà.
C'est sûr.
Oui, oui.
Mm-hmm. On va aller du côté du roman, justement, oui. parce que là, j'ai sous les yeux Relation. Oui. Il est sorti à quel... il est sorti quand ? C'était en avril
Oui, il y a, quelques semaines.
En
oui.
quelques mm-hmm. semaines, voilà. En tout cas, c'est encore... pour toi, à ton avis, c'est encore une nouveauté dans ce que tu proposes dans le monde littéraire. Tu avais déjà publié des recueils de poésie.
Oui, oui, tout à fait.
Mm-hmm. Comment tu présentes ton œuvre ? Je ne sais pas comment tu l'appelles déjà, ton livre, ton roman.
Mon livre, oui, oui, mon livre, ça me va, mais je suis aussi... j'appelle ça roman,
je
pense que
il y a
un aspect un peu récit mm-hmm. D'une expérience autobiographique, mais cette expérience autobiographique, elle est quand même fictionnalisée.
Voilà, ça
donc,
devient
évidemment,
une œuvre fictive.
Exactement,
ouais.
Donc il y a la part de l'autobiographique et il y a la part du fictionnel, mm-hmm. et je voulais vraiment quand même qu'il y ait une dimension autobiographique importante que le lecteur mm-hmm. sente. Mais,
on la reçoit très, très bien.
Mais,
je pense que Paris est...
D'accord, parfait, super. mais je voulais pas... Mais voilà, moi, dans mon écriture, clairement, ce qui m'intéresse, c'est aussi beaucoup la part fictionnelle.
Ouais.
Donc, mm-hmm. je pense pas du tout... J'ai pas du tout eu envie de raconter ma vie. Mm-hmm. J'ai voulu raconter une histoire, voilà. avant tout.
Donc, avec un objet ouais. qui devient vraiment littéraire.
Tout à fait, tout à fait.
Avec sa part de romanesque et de...
Exactement, effectif, exactement.
Oui. Alors ça devient autobiographique, ça devient autofiction, tu le mets dans un genre particulier, tu laisses hybride comme ça, tel qu'il est
Je le mets pas dans un genre particulier, mais je veux dire, je n'ai rien contre l'appellation autofiction, je sais que certains mm-hmm. ou certaines n'aiment pas, mais moi ça ne me dérange pas de le qualifier d'autofiction. Mm-hmm. En tout cas, voilà, il y a vraiment les deux, pour moi il faut qu'il y ait les deux dimensions,
c'est ça.
Une dimension qui peut être autobiographique, parce que moi, j'aime aussi, en tant que lecteur, m'identifier
oui, la,
très très fort.
L'identification ou la projection, elle est ouais. très très forte, effectivement.
Ouais. M'identifier à un narrateur. Mm-hmm. Et je trouve que si j'appelle mon narrateur Christophe, bah, tout de suite, les gens, mm-hmm. les lecteurs, les lectrices vont se dire « Ok, c'est pas lui. »
Il y a une distanciation.
Il y a une distanciation qui se crée. Et moi, j'adore plonger dans un livre mm-hmm. et me dire « Ah ouais, ok. » c'est lui, c'est son histoire, même si au fond c'est pas son
on
histoire.
On sait bien qu'il y a peut-être des zones de flou.
Il y a, un peu un pacte mm-hmm. de lecture là.
Pacte, c'est justement
qui,
là. Qui,
voilà.
Ouais. Il est présent dès le départ, je
oui.
trouve. On le reçoit vraiment. Et puis je vais te laisser en parler avec les mots que tu as envie de choisir. Mais moi j'ai eu l'impression qu'on m'a prise par le cou, tu vois, et qu'on m'a amenée dans le livre. Donc parfois, souvent, j'utilise l'expression on m'a prise par la main.
Mm-hmm.
C'est très bien de dire qu'on m'emmène,
oui.
on va faire une promenade. Mais là, j'ai l'impression que tu m'as chopée ouais. par le cou, mais qui était une sensation très abrupte et en même temps qui était secouante, remuante et donc très vivifiante quoi.
Mm-hmm.
Et le processus de projection en tout cas pour moi, pas identification mm-hmm. mais projection était très, très présent. Comment tu as envie de présenter ce livre alors, Relation, aux personnes qui écoutent ici ce podcast?
Donc en fait c'est donc un roman qui raconte une séparation.
Mm-hmm, ouais.
Et dans tout ça se passe à Madrid principalement. Et voilà, il y a une séparation dans un couple formé par deux hommes.
Mmh.
Et voilà, on est un peu immergé dans la tête, dans les réflexions, dans la pensée, dans la souffrance mmh. d'un des deux. Et l'autre est un peu une figure absente qui n'est décrite que par les yeux de celui qui raconte. Et voilà, c'est un peu l'histoire de cette séparation, pas de cette séparation, mais de l'après-séparation mm-hmm. pour celui qui reste, entre
c'est
guillemets.
Ça.
Et en parallèle, il est aussi question de sa thèse, puisqu'il mm-hmm. est à Madrid pour faire une thèse.
Oui, il y a un parallélisme qui est établi de manière
exactement.
Très, très fine, hein, très subtile, franchement.
Entre sa traversée, il dit à un moment donné que c'est comme une sorte de traversée, et la première navigation de l'Amazone par Orellana, que lui étudie. Et c'est un peu cette idée d'une sorte de périple où on ne sait pas quand ça va se finir, on ne sait pas où ça va aboutir, un peu comme voilà, cette première navigation de l'Amazon qui a été faite un peu par hasard avec les moyens du bord, avec trois
bouts de bois. Et comme tu le disais, c'est la jungle. Tout à l'heure, tu l'as utilisé pour ton processus d'écriture, c'est la jungle. Et là, in situ, c'est la jungle.
Exactement.
Il y a aussi quelque chose, il y a une résonance très forte avec ce que tu vis en tant qu'écrivain. C'est... Maintenant que je discute avec toi, j'en prends encore plus conscience.
Mais moi aussi, figure-toi. J'avais pas spécialement.
Oui, c'est intéressant. C'est un voyage qui... En tout cas, le héros n'a pas conscience du point d'arrivée.
Oui.
Il est plongé là-dedans. Et j'entends une deuxième chose. Tu me parles énormément de lecture dans ton processus pour aller dans l'écriture. Oui. Bah, préparer une thèse, c'est beaucoup de lecture aussi, de documentation. Et là, bah, peut-être que cette lecture de ce protagoniste l'amène aussi à identifier certains de ses états. J'ai l'impression que c'est ça quand je lis, en tout cas.
Je suis d'accord. Et il me vient encore une autre image avec la thèse. C'est que je pense que, voilà, on fait tous une thèse, peut-être on écrit tous un roman en se disant « j'adore ce sujet ». Et puis, quand on fait une thèse, au fil de la thèse, on se dit « ouais, j'adore ce sujet, mais là, ça me saoule
».
Donc, en fait, je pense qu'il faut faire un peu le deuil de ce plaisir qu'on avait éprouvé au tout début, qui était « waouh, j'ai choisi un sujet, ça va être passionnant, je vais faire des lectures qui seront incroyables et tout ».
Oui, tu es inspiré, tu y vas.
Et puis, il y a toujours un moment où on se dit « ouais, non, en fait, là, c'est vraiment dur ».
Mais alors là, je vais faire une pirouette qui est... Même si ton livre ne s'appelait pas comme ça, je l'aurais amené parce que je l'amène beaucoup en coaching aussi, mais c'est vraiment une relation... Avec ta thèse, avec ton objet de recherche, l'écriture, c'est une relation avec ton œuvre en construction.
Oui, oui.
Donc, relation, ça veut dire qu'il y a toutes ces phases d'une réelle relation.
Exactement.
La lune de miel, l'enthousiasme, et puis il y a des couacs, on les surpasse, on les dépasse ou pas.
Oui,
voilà. Oui. Moi, je le vis comme ça dans tous les projets.
Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut accepter vraiment ces fluctuations, ces hauts, ces bas. Ces moments où on se sent vraiment perdu, on ne sait plus du tout si on est à sa place ou pas. Donc, et puis, voilà. La polysémie du mot relation m'intéressait vraiment puisque justement il y a une relation à l'époque des grandes expéditions espagnoles, portugaises et françaises en Amérique. Les voyageurs rédigeaient des relations. Ce qui voulait dire simplement qu'ils allaient relater, raconter ce qu'ils avaient vu. Et voilà, il y a tout un truc qui m'a beaucoup intéressé là-dessus, parce que étant donné que je suis aussi spécialiste en un peu, si on peut dire, j'exagère, mais je me suis orienté vers la littérature hispanique. Et dans la littérature hispanique, ces relations tiennent beaucoup de place.
C'est ça.
Après, elles ont vraiment aussi alimenté la littérature du XXe siècle et tout plein de façons. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas spécialement dans la littérature qu'on consomme beaucoup, mais c'est très très riche.
Ça donne une ouverture sur autre chose, justement.
C'est très très riche,
Et je trouve que ça amène... Je l'ai déjà ressenti à la première lecture, mais évidemment discuté autour de ton livre. C'est quelque chose qui a plein de lignes narratives, comme un oignon avec plusieurs couches, comme ça. Et c'est gai de décortiquer. Alors, je n'aime pas décortiquer pour décortiquer et avoir un exercice de critique littéraire. Même je n'aime pas beaucoup ça d'habitude, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est intéressant d'avoir accès à chaque fois à autre chose, d'aller au cœur de ton livre. Quoi. Parce qu'il est, au niveau du livre objet, tu pourrais l'avoir dans les mains, tu te dis, mais il n'est pas non plus bien gros, il ne fait pas 400 pages,
non.
Je pense qu'on a en tête un roman.
Oui.
Mais je trouve qu'il est hyper dense, quoi, et qu'il y a vraiment plein de lignes de sous-texte, il y a plein de choses, il y a beaucoup d'épaisseur en fait.
D'accord.
Donc bravo, vraiment. Enfin, je sais pas si je peux dire bravo.
Non, mais ça me fait très plaisir que tu reçois le compliment. Oui.
Une super œuvre. Quel a été le déclic pour ce projet-là? Parce qu'il y en a eu d'autres. Il y en a toujours plein.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui te dit? Il y a plein d'idées qui gravitent autour de toi et des ressentiments. Mais là, tu te dis des sentiments, des ressentis.
Oui.
C'est celui-là. Je le chope et j'y vais.
Bah, disons que ça, c'est un peu difficile de revenir sur la genèse de ce texte-là. Parce que c'est toujours... pas parce que c'est difficile personnellement, je veux dire, parce que c'est toujours compliqué de savoir à quel moment le déclic s'est produit, quoi.
Tu sais pas mettre ça sur le calendrier, une date, c'était là.
Disons que c'est quand, c'est justement quand j'ai... parce que je lis toujours beaucoup de littérature hispanique, même de cette époque. Et c'est quand j'ai trouvé le point, le parallèle avec... qui n'était même pas un parallèle au début, qui était juste, je me disais, tiens, on parle beaucoup, on connaît beaucoup de récits d'exploration et de conquête, hein, on va dire le mot, de l'Amérique. Je sais pas, Cortés, Christophe Colomb, Pizarro, tout ça, on connaît, mais on connaît pas du tout la première navigation de l'Amazon, qui est pourtant un truc complètement incroyable. Je me suis dit, tiens, je vais explorer ça, j'ai un peu envie d'écrire là-dessus. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un parallèle avec une situation de vie. Et voilà, là, je pense qu'au moment où j'ai pu associer les deux, je me suis dit, ça, ça va me faire suffisamment de matière pour pouvoir tirer un peu des fils après et construire un récit, quoi.
Il y a une impulsion, tu as senti qu'il y avait une idée peut-être aussi. Moi, j'aime bien le terme original dans le sens, on n'a jamais fait, c'est génial, mais original, l'origine de quelque chose.
Ouais, et puis que toi, ça puisse te donner justement l'impulsion pour dire ok, ça me plaît suffisamment pour pouvoir vraiment un peu transpirer dessus maintenant, quoi,
en sachant que c'est un travail
tout à fait, donc
hyper amoureux l'idée au départ, quoi.
Oui c'est sûr, donc voilà. Et puis après, évidemment, le texte se façonne aussi avec l'éditeur, puisque ici en l'occurrence c'est Antoine Wauters qui dirige cette collection IF aux éditions de l'Arbre à Parole. Et donc avec lui, une fois qu'il a accepté le manuscrit, ben voilà, on discutait aussi, on a discuté 2-3 fois. C'est pas du tout quelqu'un qui intervient nécessairement beaucoup dans les textes, mais voilà, on a quand même discuté de tel point, tel autre point. Il m'a vraiment aidé, lui, avec son expérience quand même déjà très très conséquente.
Il a un œil aussi sur ces choses-là.
Il a un œil très très acéré, étant donné que voilà. Il reçoit des manuscrits en tant qu'éditeur, mais il a aussi une pratique d'écrivain, et il adore, je pense, ce travail d'éditeur aussi. Donc voilà, ça m'a aussi aiguillé pour un peu mettre la touche finale au texte, quoi.
Ça m'amène à la question suivante, parce que justement, tu parles d'un travail d'éditeur et d'édition autour de ça. Comment ça se passe à partir du moment où, effectivement, tu le mets dans les mains de ton éditeur? Est-ce que c'est facile pour toi d'accepter éventuellement des pistes, des changements, d'amélioration, de retravail, ou c'est compliqué parce que c'est ton bébé et, je sais pas.
Oui, disons que je pense que j'ai une totale confiance dans la vie d'Antoine, que je connais déjà depuis longtemps, qui est vraiment un ami. Donc c'est sûr que je pense que voilà, il a un œil de lecteur qui est vraiment très très fort. Donc quand il me dit des choses, j'en prends acte, et je me dis, tiens, effectivement, ce serait peut-être mieux de changer ceci, changer cela. Après, je pense que il avait pas énormément de remarques à faire. Ça aurait été difficile pour moi de changer vraiment la teneur du truc, parfois des éditeurs peuvent dire, ou des éditrices peuvent dire, écoute, oui, ton livre est bien, mais il faut que tu me trouves un personnage supplémentaire.
Et on doit tout revoir et tout repenser.
S'il m'avait dit un truc comme ça, j'aurais été quand même mal. S'il m'avait dit, ouais, écoute, faudrait que ce soit un trio. Moi je pense, enfin, peut-être ça m'arrive un jour qu'un éditeur ou une éditrice me dise ça, mais là c'est vraiment compliqué, parce que je veux dire, je pense que quand on te dit ça, faut que tu casses toute la maison et que tu remettes toutes les briques dans un autre sens. Et là, c'est dur.
Mais c'est intéressant d'aller voir cet aspect-là aussi, des personnes, que ce soit éditeurs, éditrices, bêta-lecteurs, lectrices, etc. Il y a des feedbacks qui interviennent à un moment donné sur ton propre projet. Moi, j'aime bien toujours envoyer aux personnes qui viennent ici en accompagnement, tu gardes quand même les rênes de ton projet.
Ouais, à fond.
Mais
à fond.
Il faut aussi avoir l'oreille, il faut pouvoir recevoir des choses. Et j'entends le mot confiance, amis. Les amis, parfois, ont cette franchise aussi, ils peuvent l'autoriser. Mais je trouve qu'au final, tu sens dans ton ventre, dans tes entrailles, est-ce que c'est toujours fidèle à ce que je voulais faire ou pas.
Oui, c'est ça.
Tu le ressens comme ça, toi, quand on entend des feedbacks, des suggestions.
Après, je pense que... Enfin, moi, ce texte, je ne l'ai fait lire que à Antoine, uniquement à lui, avant qu'il arrive à sa phase finale. Et quand il était finalisé, là, je l'ai envoyé à quelques amis, à des proches. Mais justement, pas en leur demandant en quelque sorte leur avis. Enfin, si, en leur demandant leur avis, oui, mais pas en leur demandant. Parce que je vais reformuler mon idée. C'est que je pense que si on fait lire quelque chose à quelqu'un à un stade trop précoce, cette personne, elle va se dire peut-être, ou alors on lui demande, tiens, c'est quoi ton avis, ou on demande de l'aide. On demande de l'aide. Écoute, là, je suis bloqué, je ne sais pas comment faire.
C'est des choses différentes aussi.
Ça c'est des approches totalement différentes. Mmh. Et ça, je ne veux pas. Je veux dire, je veux faire le chemin tout seul. Même si au final, si ça tombe, si j'avais demandé un avis, on m'aurait donné un avis et ça m'aurait tout de suite débloqué. J'en sais rien. Mais en tout cas, je ne le fais pas. Je veux faire le chemin. Je veux faire le chemin tout seul, même si c'est un sale chemin où je vais tomber 10 fois.
Oui, d'accord.
Et donc, et voilà, une fois le texte achevé, là, évidemment, je suis tout à fait prêt à recevoir des avis. C'est nul, c'est bien, j'ai adoré, j'ai pas aimé. Mm-hmm. Ça m'est complètement égal parce que le texte est fini.
Ouais.
Donc, mais bien sûr, de mon éditeur, c'est la personne clé.
Oui, évidemment.
Donc, c'est normal que...
Lui, c'est son métier, pour revenir à cette...
Et lui, c'est complètement son métier. Donc, voilà, il sait aussi comment un livre va plus arriver au lectoriste. Et ça, hyper important parce
très
que...
Important.
En tant qu'auteur, tu sais moins ça. C'est lui qui connaît un peu les arcanes du milieu.
Oui, il connaît les arcanes, il connaît les enjeux, il connaît. Voilà, c'est un métier, et c'est aussi un business. Hein,
oui, bien sûr.
On en pense. Et c'est son rôle. À côté de ça, j'entends cette idée de précocité. Je te rejoins dans l'idée que, idéalement, c'est pas souhaitable d'amener son projet embryonnaire ou même déjà assez développé quand il est encore un peu fragile, quoi.
Oui.
Parce que toi-même, tu es encore fragile à certains égards à côté de lui.
Ah, c'est sûr.
Donc là, effectivement, je te rejoins. Oui. Je trouve que c'est assez risqué quand même de le montrer trop tôt.
Tout à fait raison.
Et à n'importe qui.
Oui, je crois que fragile, de toute façon, on l'est tout le temps, sans vouloir faire de drama. Mais je pense que fragile, par rapport à sa création, si on peut dire ça, on l'est tout le temps. Ou à son travail, on l'est tout le temps parce que... Voilà, c'est un peu comme tu disais, notre bébé, donc t'as jamais tellement envie qu'on touche à ton bébé ou qu'on lui fasse des donc forcément, même quand il est grand, on va dire.
C'est
donc,
hyper lucide, quoi.
C'est toujours hyper... Mais il faut évidemment entendre la critique et tout à fait accepter qu'il y ait des gens qui n'aiment pas et tout ça. Ça, c'est pas du tout... Là-dessus, j'ai pas de soucis. Mais malgré tout, on est toujours fragile. Donc, s'exposer à un moment d'hyper-fragilité quand on commence un projet et qu'on n'est déjà pas du tout sûr.
Beaucoup de doutes et encore beaucoup d'inconnus, etc.
C'est difficile.
Pour une dans la jungle, il faut déjà avoir tracé son sillon déjà pas mal. Quoi.
C'est difficile, mais après, parfois, je me dis que j'ai tort. Parfois, je me dis que j'ai tort, franchement. Parce que...
Au moins, tu peux te remettre en question. Tu as cette capacité de te remettre en question et toujours temporairement poser, ponctuellement poser la question, est-ce que...
Oui, c'est ça.
Ça ou pas.
Mais c'est vrai.
Ça reste toujours un process qui continue, quoi.
Je suis toujours quand même tenté de me dire, est-ce que je ferais pas lire plus tôt ? C'est toujours quand même quelque chose qui me vient, parce que, par exemple, avec Antoine, je lui ai fait lire d'autres projets plus tôt, et il m'a vraiment dit, mais je crois que ça va pas fonctionner comme ça. Et il avait hyper raison. Il avait raison. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Donc voilà, donc autant savoir, limite tôt.
Mais j'ai l'impression que tu te connais bien dans ta pratique de l'écriture, en fait.
Ouais.
Moi, j'entends ça. Parce que voilà, il y a déjà, on peut le voir si on va simplement se pencher sur ta bibliographie, ou sur ta biographie, etc. Mais on sent qu'il y a déjà une certaine pratique. Donc moi, ce que j'en déduis, et si je me trompe, dis-le moi, mais c'est qu'il y a aussi une forme d'expérience, mais de métacognition. J'ai l'impression que plus on avance dans des projets, on peut identifier ce qui fonctionne.
Oui.
Peut-être que maintenant, c'est plus OK pour toi d'avancer seul, parce que là, tu te sens quand même toujours fragile, je te rejoins là-dessus. Mais comme un peu mieux équipé pour venir sur ce voyage, cette traversée.
Y a une forme de légitimité déjà que tu acquiers.
Mm-hmm. Oui, c'est
ça. Et qui te renforce quand même un tout petit peu au fil du temps et de ta pratique et des retours que tu as des gens et des retours que tu as éventuellement des éditeurs. Mm-hmm. Donc ça aide, mais néanmoins, face à un nouveau projet. Mmh. On est toujours hyper démunis et je pense que c'est moi comme c'est tout le monde.
Ah oui, je pense.
Je pense que quel que soit ton niveau de célébrité ou de réussite.
C'est ça qui est gay, écouter parfois des podcasts, des interviews d'autres personnes qu'on admire, qui sont peut-être, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais plus avancées dans le chemin.
Oui.
Et de les retrouver dans ce même espace, ce même endroit de fragilité, finalement ça fait du bien.
Ouais. Non, c'est clair.
On est tous traversés dans la création par les mêmes phases, les mêmes états. Il y a un truc assez universel, je trouve, là-dedans.
Complètement. C'est ce que je retrouve aussi quand j'entends des podcasts d'autoristes confirmés.
Ouais.
C'est tout à fait ce que je retrouve.
Et j'entends lecture et moi, j'entends podcast aussi. J'ai l'impression que ça nous fait du bien à vivre les podcasts aujourd'hui. On a accès à tellement de choses pour écrire maintenant.
Oui.
Je ne sais pas comment on faisait au 18e siècle, au 19e, où tu vois, Balzac, je ne sais pas comment il a appris son métier.
Ouais,
mais en tout cas, il était journaliste, mais voilà. Et j'entends aussi, je reviens à cette fragilité, Je reviens à l'autobiographie, mélangée voilà, à la fiction. Il y a quelque chose qui touche profondément à l'intime. Comment tu vis cette exposition de ton intime? Parce que je pense à ça parce que je pense aux auditrices. Je vois les projets qui viennent à moi régulièrement. Et c'est toujours un blocage systématique. Oui. C'est, là, je suis en train d'écrire pour moi, mais je n'arrive même pas parce que je sais que quelqu'un va me lire.
Ouais.
Et même, ce n'est pas un public anonyme. C'est telle personne qui me connaît, ma voisine, mon conjoint, ma conjointe. Comment on dépasse ça? Comment on vit avec cette exposition de son intime?
Il me semble que c'est important de distinguer le privé et l'intime. Mmh. Et donc, l'intime, ce qu'on expose, c'est une forme d'intimité. Mais ce n'est pas son intimité. Mmh. Enfin, selon moi, on expose une... Il faut que le lecteur... Il faut qu'on crée une intimité avec le lecteur. C'est ça qui est important pour moi. Mmh. Mais le privé, c'est ce que je vis dans ma vie privée.
Tout à fait.
Et ça, c'est autre chose. Donc, bien sûr que pour ses proches, on est toujours inquiet. Parents, conjoints, conjointes, comme tu disais, enfants, si on en a, ou etc. On est toujours inquiet. Mais il faut, pour moi, il faut vraiment... Mais non, c'est un travail, c'est une création.
Ouais, je veux dire, une création.
Quand un peintre peint un tableau, on va jamais, ou quand on écrit une musique, on va jamais nous demander, tiens, c'est toi, c'est ton intimité, c'est ton... Non. Mais justement, mais c'est ça qui est génial avec l'écriture. Je ne veux pas du tout enlever ça. C'est ça qui est génial avec l'écriture. Mmh. C'est qu'on a l'impression de pénétrer dans l'intimité de quelqu'un. Mais c'est une création.
Ouais. C'est ça le truc. C'est comme socle d'importance.
C'est ça le truc. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je ne crois pas tellement aux auteuristes qui disent, voilà, je raconte ma vie. Mmh. Je raconte ma vie vraiment. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout de raconter ma vie.
Je repense à... J'avais suivi un cours d'écriture biographique à Bruxelles pendant un an, et pour écriture biographique, stricto sensu, le prof Benoît Copé nous expliquait que même là, à partir du moment où tu prends la plume, tu vas raconter la vie de quelqu'un, il faut accepter tout de suite, valider tout de suite que ça devient fictionnel.
Complètement.
Ça devient une œuvre littéraire, quoi.
Oui.
Et à partir de là, il n'y a même plus besoin de justifier, de chercher à comment expliquer les
Exactement.
Choses.
Exactement.
Ça devient une production, quoi.
Culturelle. Super d'accord avec toi. Et je pense que dès qu'on met des mots sur la vie, ça devient une fiction. De toute façon, quand tu rentres chez toi et que tu racontes ta journée, t'es déjà en train de faire
ça. C'est une perspective, il y a une manière, on dit faut raconter la Marseillaise ou quoi, on met le curseur.
Bien sûr, il y a des ellipses. Voilà. Quand tu racontes ta journée et que tu rentres chez toi, 90% des trucs, tu les racontes pas. Tu racontes 10%, 5%, des trucs saillants, tu les remets en scène. Et là, t'es déjà en train de construire une fiction. Donc,
c'est partie du récit à la base, quoi.
Oui. En fait. Donc, mais après, moi, j'adore lire un livre et me dire, waouh, c'est sa vie.
Ah ben oui, on a besoin de ça. Tu parles de la lecture, du lecteur, de la lectrice, on a besoin de sentir ça quand on veut vibrer avec ça.
Et c'est ça qui est je trouve, les livres réussis, pour moi, c'est vraiment ceux dans lesquels tu arrives vraiment à pénétrer, à t'identifier pleinement. Et puis alors, après, peut-être, après, parfois, tu ne sais rien de la vie de l'auteur, et ça reste un pur mystère.
Ouais.
Mais voilà, par exemple, quand des auteurs ou des autoristes sont consacrés, évidemment, on commence à connaître des choses de leur vie. Mmh. Et donc, on en sait de plus en plus. Et donc, on sait ce qui sépare la vraie vie de ce qui a été créé.
Voilà, la part des choses.
Et là, c'est toujours un peu gênant, c'est toujours
ça
un peu compliqué.
Tendu, hein. Je pense à des films de Vigan, d'après une histoire vraie,
où
durant les trois quarts du récit, on ressent tellement, on voit son compagnon voilà, qui anime la grande librairie, on la voit en salon de littéraire à Paris, on se dit, bah, ok, c'est sa vie, et puis ça part en couille à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est un peu presque dérangeant, parce que là, ça ressemble trop à sa vie, en fait. Quoique, je trouve ça magistral, ce livre-là, mais c'est la vraie question que tu amènes. Hein.
Mais oui, c'est une question que je me pose souvent, et je dois réfréner aussi cette idée de me dire, ouais non, attends, c'est sa vraie vie ou pas? J'ai envie de connaître sa vraie vie.
Peut-être t'émanciper de ça.
Et ça, mais malgré tout, ça me ramène quand même à des expériences de lecture complètement folles. Mm-hmm. Par exemple, quand j'avais lu Philip Roth, Portnoy et son complexe, où il raconte cette histoire de ce personnage qui pourtant ne s'appelle pas comme lui, mais qui s'appelle Portnoy.
Non,
donc tout de suite, on peut se dire que c'est pas lui. Et pourtant, j'avais l'impression de le voir à toutes les pages. Et puis après, quand j'ai lu sa biographie, c'est pas du tout lui.
Non.
C'est pas du tout son enfance. On se dit, c'est pas possible. C'est son enfance. C'est absolument... T'es immergé là, dans New York, dans la communauté juive et tout. Tu te dis, c'est son enfance.
Ouais.
Ben non, c'est pas son enfance.
Et là, il y a vraiment une pirouette.
Ouais,
voilà.
Là, c'est magistral. Et même, j'ai lu dans un livre de Javier Cercas, La vitesse de la lumière, à un moment donné, on est vraiment immergé avec lui. C'est un écrivain qui est en résidence aux États-Unis et tout, c'est lui. C'est
ça,
lui. C'est lui à toutes les pages. Et tu te dis, ouais, c'est ça. Et puis à un moment donné, sa femme meurt. Tu te dis, mais c'est horrible et tout, sa femme est morte et tout ça. Puis en fait, sa femme n'était pas du tout morte. Mais il avait vraiment raconté ça. Et je trouve que par exemple, raconter un truc comme ça, raconter un truc comme le fait que la mort de sa femme, c'est quand même incroyable, je trouve.
Et c'est couillu, c'est quoi.
Quand même, ouais, 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 ouais. Franchement, il faut vraiment y aller.
Dans l'écriture.
Faut vraiment y aller. Ouais, donc ouais, ouais. Là, pour le coup, oui.
Mais je trouve, je reviens à ton idée du pacte avec le lecteur, hein, oui. Le lectoriste au début, mais en fait c'est vraiment ça, c'est que le pacte est tellement bien scellé que oui. L'auteur en joue, quoi. Oui. Et j'ai envie de revenir à ton livre parce que pour l'avoir vraiment parcouru et comme je dis, avoir été saisi par le coup pour rentrer dedans, c'est inévitable qu'on se pose la question du autobiographique, mais je trouve qu'avec ce pacte qui est posé dès le départ, on s'en éloigne très rapidement parce que c'est purement littéraire, quoi. Oui. Même dans le roman, c'est poétique. Il y a quelque chose qui nous ramène vraiment dans le style, dans les mots, dans l'évocation, la sensorialité. Et j'ai l'impression qu'on s'en détache très rapidement et qu'on l'accueille telle quelle, comme une œuvre. Et donc si c'est ça, j'espère que t'es content.
Ça c'est génial. Oui, ça c'est vraiment.
Le fait qu'on exercice de style. En
qu'on n'y pense plus. Le fait qu'on n'y pense plus. Voilà, on est dans un univers. Et dans ce monde, voilà, il y a le monde, ce monde a ses règles. Il est tout à fait particulier, mais on est immergé dedans.
C'est ça.
Et voilà, ça c'est comme sur l'Amazon un peu, voilà, on se laisse porter par le courant et on verra où ça arrive, quoi.
On se laisse dériver, en plus je crois qu'il y a même, il y a dévié, hein, il y a le terme dévié.
Oui.
Donc on est un peu là-dedans, effectivement. Si tu avais un conseil à donner à ces personnes qui sont dans des récits vraiment, qui touchent profondément à l'intime, et qui, au fond d'elles, ont comme envie de ce lecteur idéal, et qui ont cette idée de l'offrir au monde, mais il y a ce fameux blocage. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à leur donner ?
Moi, je me sens pas tellement autorisé à donner des conseils, mais en tout cas, je pense que c'est difficile parce que parfois les gens ont des expériences de vie qui sont très très douloureuses et dans lesquelles je peux pas m'immiscer. Enfin, je veux dire avec lesquelles je peux pas forcément m'identifier. Mais moi, pour moi, c'est important de raconter une histoire plus que de raconter sa vie.
C'est ça.
Et l'effet sera tout aussi puissant en racontant une histoire qu'en racontant sa pure vie. Voilà, je veux dire, si tout de suite on crée un personnage, on lui donne un nom, on lui donne une identité, on lui donne un lieu, mais voilà, je pense que l'effet cathartique peut être tout aussi puissant pour le lecteur comme pour l'auteur. Mais se dire, voilà, je raconte une histoire, c'est ça qui est...
Et là, tu viens de souligner un truc vraiment important, quoi.
Et c'est ça qui... Je trouve que les histoires, ça ramène aussi à l'enfance, à ce monde un peu réconfortant, quand on a découvert la lecture. Voilà, c'était ce monde un peu magique, un peu merveilleux. On peut le retrouver dans le quotidien aussi.
Ouais.
Donc, voilà, raconter une histoire plutôt que raconter sa vie.
C'est très intéressant et c'est vraiment l'idée, hein, je pense, qui est essentielle, vraiment. J'ai une dernière petite question. Maintenant qu'il est là, qu'il existe... Il y en a eu d'autres aussi avant, mais celui-ci, qui est un nouvel exercice, j'ai l'impression, pour toi, tu le vois en librairie, tu es déjà dans des représentations, des rencontres, etc. C'est quoi l'après ? Comment on vit l'après de cette œuvre qui est parue au monde, aux yeux de tous, de toutes ?
Je dirais que l'après, c'est plutôt agréable, évidemment, parce que tout ce travail qu'on a fait un peu dans l'ombre pendant tout un temps, il est reconnu d'une certaine façon, dans le sens où... on a des petits retours, des rencontres avec le public qui vont venir. Mais moi, je suis déjà évidemment dans l'après, quoi. Je veux dire, je suis déjà mu par quelque chose de nouveau et mentalement là-dedans, quoi. Ce qui est passé en termes de travail et d'écriture et tout ça.
Donc que tu amenais, ces choses prennent du temps et en même temps, tu n'as pas attendu pour faire autre chose.
Ah ouais,
donc il y a des chevauchements dans les projets, j'imagine.
Oui, ça c'est assez fou. Mais ici, je suis très 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 content, j'ai eu énormément de chance que ça ait pu se faire rapidement, en un an.
Non, pardon,
je ne parle pas de l'écriture, hein. pas du tout de l'écriture.
Non.
L'écriture, elle a pris 2-3 ans.
Oui.
Mais le fait qu'entre le moment où j'ai contacté Antoine et
le calendrier éditorial.
Voilà, exactement. Tout s'est mis là, vraiment bien.
C'est juste.
pour qu'il y ait un an vraiment de premier contact et le moment où ça sort.
C'est ça.
Ce qui est vraiment génial parce que garder des projets comme ça qui sont finis et surfinis et puis encore devoir, c'est bien. Une forme de légèreté comme ça.
Et j'ai une question qui m'intéresse parce que. mon propre projet est en cours, etc. Oui. Tout se passe bien, mais c'est vraiment cette question de ce truc qui est déjà loin derrière
oui.
moi.
Oui. Oui.
C'est vraiment une question très personnelle, je pense qu'elle va parler à d'autres aussi.
Oui.
Maintenant, tu en parles, tu retournes un peu oui. dans cet état d'esprit. Moi, j'ai parfois l'impression que je suis différente de celle qui a écrit et qui
certes.
A habité
oh, oui.
le propos oui. qui était celui de mon livre. Et en même temps, comment on fait ce voyage un petit peu ? Tu le vis comme une régression ? Tu le vis comme un plaisir de revenir là-dedans ? Parce qu'il y a autre chose
oui.
par laquelle tu es pris maintenant. Comment ça se passe ? Moi, c'est vraiment une question qui m'intéresse
ouais.
profondément.
C'est intéressant, mais justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que même nous, on se rend compte que ce n'est pas nous.
Ouais,
donc forcément, je veux dire, il y a quand même ce décalage. Mais voilà, c'est parce que c'est vrai que ce livre, il est nourri d'expériences de vie mais qui forcément sont passées, sont terminées, bon, peut-être d'autres sont en cours, mais je veux dire, en tout cas, c'est sûr, ça s'est nourri d'un terreau existentiel qui fait partie du passé.
Ouais.
Mais moi, j'aime bien y revenir comme une création, donc ouais. Comme un objet, comme une architecture, comme quelque chose qui a été créé.
Qui est solidarisé de toi, d'une certaine manière.
Ouais, exactement. Et puis en fait, j'aime bien y revenir tout simplement comme un lecteur. Lambda. Comme
oui.
Là, on est tous à égalité là-dessus. Mm-hmm. Je le prends, je suis un lecteur, les autres sont des lecteurs, des lectrices, et voilà, c'est tout.
Tu aimes te lire, t'as bien ce que tu as écrit.
Non, ça, je ne vais pas jusque-là. Je ne peux pas le dire.
Il y a des moments où c'est comme sympa, non ?
Non, ça, je ne peux pas. Je ne reviens jamais sur ce que j'ai écrit, dans le sens où je ne suis pas chez moi là à me dire, oh tiens, je relirai bien tel passage. Ça, ce n'est pas du tout parce que c'est hyper angoissant, je trouve, de se relire. Ça, je suis super content que maintenant l'éditeur ait pris le projet et que ce soit parti et que d'autres lecteurs puissent me nourrir, mais moi, relire le truc, après, voilà, je suis content de le présenter aux gens, que c'est une rencontre
oui,
et je fais des lectures,
ouais.
Parce que l'exercice de la lecture orale, ça me plaît. Mais oui. Si je pouvais lire Garcia Marquez ou La Fontaine, j'aimerais bien aussi quoi.
Quoi.
Je veux dire, c'est pas spécialement
la lecture
travail.
À
oui. voilà.
C'est un truc super agréable
oui.
aussi, évidemment. J'ai une dernière petite question,
oui.
vraiment dernière. Est-ce qu'il y a ton rituel, vraiment de manière succincte, est-ce qu'il y a un moment qui est vraiment fondamental dans ton rituel d'écriture, s'il y en a déjà ?
Mais il n'y en a pas. En fait, il n'y en a pas, donc c'est simple. Il n'y en a pas parce que j'ai vraiment une vie professionnelle par ailleurs qui est très, très bien remplie. Donc, je ne peux pas comme ça me dire systématiquement tel jour à telle heure je vais faire ça, même si je pense que ce serait important. J'aimerais bien peut-être dans le futur.
Ouais.
J'aimerais bien peut-être dans le futur le mettre en place parce que je crois que ça a son importance. Donc, il n'y a pas de rituel, mais il y a quand même l'idée de se dire peut-être tous les jours il faut que je fasse quelque chose.
Ah ouais.
Il faut que je fasse quelque chose en rapport avec mon projet, que ce soit une lecture. Que ce soit.
Oui, voilà, c'est aussi tout ce qui est para autour.
Mais par contre, oui, le lecture, voilà, lapsus révélateur, vraiment la routine qu'il faut que je mette en place, c'est vraiment la lecture, vraiment. Ouais. C'est notre fil rouge. Mm-hmm. Mais voilà, il faut lire tous les jours, sinon on serait comme une plante qui s'assèche, quoi.
Voilà, on va garder ça. La lecture,
oui.
C'est déjà fameux en soi, hein. C'est déjà un rituel
c'est
en
clair.
Soi qui n'est pas présent.
Qui n'est pas si simple à mettre en place, surtout dans notre monde, parce que tu parlais tout à l'heure. De Balzac et tout, comment ils faisaient ? Ben, ils faisaient que leur monde était essentiellement de l'écriture. Tout le monde écrivait, tout le monde écrivait. Non, bien sûr
mais
que
même
non.
Les correspondances épistolaires.
Voilà, exactement.
Ça,
donc,
voilà.
Ça te donnait quand même tout de suite
déjà,
un fond.
Base, quoi. Ben, oui. Lecture, on va garder ça.
Oui.
Et la petite conclusion de notre podcast ici, de l'épisode, c'est que j'aime bien poser cette question-là. Est-ce que pour toi, dans ta vie, dans cette vie qui est profondément de ton intime, il y a des mots, un mot, tu le lis, tu l'entends, tu l'écris, est-ce qu'il y a des mots pour toi qui te délivrent, qui font que il y a une sorte de libération de beaucoup de choses ?
En tout cas, j'ai du mal à penser à un mot comme ça. Mais ce serait plutôt une langue, et ce serait plutôt la langue espagnole.
Voilà.
Donc, on pourrait prendre un mot de la langue espagnole qui serait peut-être libro, puisque libro, c'est le livre, mais il y a aussi, d'une certaine façon, cette homophonie avec liberté, libre, libro. Il y a quelque chose de... Voilà, d'un peu libre dans le livre.
Bon, on le prend.
Voilà.
J'en voyage déjà un petit peu grâce
voilà.
à toi comme ça. Merci beaucoup Alexis. Vraiment,
merci à toi.
C'est précieux, t'as consacré du temps, t'as partagé quelque chose qui est de ta pratique. Et, c'est précieux, vraiment, merci.
Merci à toi.
Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne, bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire et laisse les mots te délivrer.